Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Les parents et les enfants eux-mêmes sont parfois désemparés devant des peurs qu'ils n'arrivent pas à expliquer ou à maîtriser. Est-ce normal d'avoir peur du grand méchant loup, du noir ou des araignées ? Mes invités vont nous aider à comprendre tout de suite. Et je pense qu'on a tous eu peur, plus ou moins dans notre enfance. On va voir d'ailleurs si c'est normal d'avoir peur et si c'est pas normal de ne pas avoir peur. Un thème qui nous intéresse tous, que l'on soit parent ou grand-parent, parce qu'on est démunis parfois, on ne sait pas comment agir, comment réagir, comment faire. Alors j'accueille avec joie Liliane Nemeth-Pir. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes psychoclinicienne, psychanalyste et vous avez écrit cet ouvrage qui s'intitule « Peur du noir, monstres et cauchemars », entre autres choses, aux éditions Albin Michel. J'accueille également Florence Millot, vous êtes psychologue libérale à Paris et vous avez écrit également « Il y a des monstres sous mon lit » aux éditions Hachette. J'ai aussi ce livre avec moi « Aidez vos enfants à vaincre, votre enfant à vaincre ses peurs ». Et on voit le grand méchant loup en noir sur une couverture verte. Alors, tout d'abord, Liliane Nemeth-Pir, est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on est petit ?
Oh oui, c'est normal parce que on est dans un monde de grands avec plein de choses autour de soi qui peuvent sembler menaçantes. Le petit enfant est tellement fragile, démuni, il n'a pas une force physique et il est en permanence face à des peurs, peur de perdre ses parents, peur d'être tout seul, peur d'être dans son lit, peur des nouveaux enfants qu'il côtoie. Il a tout le temps peur.
Alors, on parlera de deux sortes de peurs. Il y a ces fameuses peurs nocturnes pendant la nuit ou au coucher, et puis les peurs qui subsistent aussi pendant la journée. Est-ce que, Florence Millot, ces peurs sont vraiment spécifiques à différents âges de l'enfant dans son développement ?
Ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'effectivement, dès 8 mois à peu près, l'enfant...
Dès 8 mois,
on peut repérer avec l'angoisse de séparation un premier type de peur qui... La base de la peur est à peu près la même dans la sensation, mais les images vont changer. C'est-à-dire que vers un an et demi, ça va être la peur du bruit. Vers 2 ou 3 ans, ça va être la peur du loup. Ensuite, ça va transformer vers 4-5 ans la peur du kidnapping, la peur des cambrioleurs. Et puis plus grand, ce sera la peur d'échouer, la peur de parler en public, etc. Finalement, jusqu'à l'âge adulte.
Jusqu'à l'âge adulte. Et ces peurs peuvent perdurer, justement, si elles ne sont pas réglées à temps. On va voir comment prendre ces peurs, parce qu'on a l'impression que, la plupart du temps, on va essayer de calmer l'enfant, on ne sait pas trop s'y prendre. L'enfant qui se réveille dans la nuit, on dit, ça va aller, rendors-toi, le monstre est parti, je ne sais pas. Liliane Nemeth-Pir, on est vraiment désemparé comme parents, parfois, devant la peur de son enfant quand il se réveille en pleine nuit, en pleurs, en sueur, etc.
Beaucoup de parents sont désemparés et aujourd'hui, on multiplie les accessoires pour consoler les enfants. Les tétines, les lumières, les doudous, il y a un attirail.
La musique.
La musique, etc. Les écrans aussi. Enfin, tout ça pour consoler son enfant. Et je trouve que beaucoup de parents aujourd'hui sont démunis et n'ont pas confiance en eux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les meilleurs remparts pour aider l'enfant à surmonter ou pour accompagner les peurs de leur enfant.
Qu'est-ce qu'on met sous le mot peur, Florence Millot ?
Est-ce que vous pouvez développer ?
Qu'est-ce qu'on met sous le mot peur ? Est-ce que ça, c'est de l'anxiété ? C'est simplement une peur parce qu'on est dans un environnement inconnu ?
Alors, la peur, c'est vraiment quelque chose de normal et biologique, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous protéger depuis tout temps. L'enfant et l'adulte a eu peur depuis les premiers jours de notre vie sur Terre, j'ai envie de dire. Par contre, autant les peurs de l'enfant sont normales, surtout dans la petite enfance, comme vous disiez tout à l'heure, il est dépendant de tout, donc c'est normal qu'il se sente fragile. En revanche, en grandissant, quand les peurs ne sont pas traitées, et surtout quand elles ne sont pas écoutées, elles se transforment en anxiété, donc c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la peur, globalement, c'est d'avoir peur de quelque chose qui existe ou qu'on peut avoir devant soi, comme par exemple la peur d'un serpent. Alors qu'une anxiété...
Il y a une représentation, une image.
Il y a un objet réel, je peux le toucher. Tout le monde peut voir qu'il y a un serpent, qu'il y a un dragon, qu'il y a un loup, par exemple.
Ouais, parce qu'avoir un dragon sous son lit, c'est...
Oui, je me suis trompée. C'était pour introduire l'anxiété, alors que l'anxiété, c'est vraiment une image mentale.
On est dans l'imaginaire.
Mais du coup, l'anxiété peut perdurer jusqu'à l'âge adulte. Hein. C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose qui n'est jamais arrivé ou qui n'existe pas, et on est constamment en lutte par rapport à ça.
Mais on a peur parce qu'on nous a parlé de quelque chose. Un bébé ne peut pas avoir peur naturellement de quelque chose qu'il n'a pas expérimenté ou connu.
Si les peurs se développent, même si l'enfant est dans un environnement très protégé, tout rose, tout coucouné, les peurs, c'est plutôt des peurs du développement de la vie psychique
et
de tout existentiel et surtout de tout ce qui se passe dans la tête de l'enfant, de l'obscur, de l'énigmatique qui est en lui, de tout ce qui se précipite et qui grouille au fond de lui, ses petites peurs, ses grandes rages, ses petites jalousies, ses désirs. Toute la vie pulsionnelle d'un enfant peut lui faire peur et va être projetée sur l'extérieur. Donc, même si un enfant, on le protège en permanence, il sécrétera, j'allais dire, avec son inconscient, des peurs, en fait, lui-même et de sa vie intérieure.
Vous parliez tout à l'heure, Florence Millot, des premières peurs qui peuvent se situer à l'âge de 8 mois. Comment peut-on, chez un bébé de 8 mois, repérer que sa manifestation de peur ou son visage un petit peu crispé correspond à une peur ?
En général, on le sent parce que, par exemple, dès que vous vous éloignez, dès que vous sortez d'une pièce, l'enfant hurle alors que tout va bien, qu'il a mangé, qu'il n'est pas malade, que le parent le sent de toute manière. La peur, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, quand le parent...
juste avoir faim ou...
le parent, en étant toujours avec son enfant, repère bien qu'à chaque fois qu'il sort de la pièce, par exemple, l'enfant hurle. Ou que quand l'enfant est mis dans les bras d'un étranger, par exemple, ou simplement d'un ami, l'enfant hurle. Donc, quand on est tous les jours avec son bébé, on observe bien. Les mamans arrivent quand même facilement à décoder quand c'est de la faim ou quand c'est de la peur.
Ou devant des bruits. Souvent, il y a un bruit, le bruit de l'aspirateur, etc. Il y a des bébés qui ont très, très peur. Et le corps, corporellement, ça se sent sur un bébé. Il se crispe, il vient s'accrocher à sa maman ou à son père. Il a besoin de se référer à une base de sécurité qui est la figure d'attachement.
Finalement, c'est une réaction normale. C'est une réaction, on peut dire, de défense.
Oui,
par rapport
à ce qu'il ne connaît pas.
Ça.
Nous, en tant qu'adultes, on peut ressentir la même chose avec des bruits un peu plus forts, comme un klaxon ou comme une grande porte qui claque alors qu'on était bien et tranquille en train de discuter. C'est fait comme une effraction dans le corps. Donc tout de suite, on se raidit. Mais comme on est capable de mettre en image et de savoir d'où vient ce bruit, par exemple le bruit de la porte qui claque, on peut se rassurer nous-mêmes à l'intérieur.
Ce que ne connaît pas l'enfant à ce moment-là, ce qu'il n'a pas expérimenté encore.
Voilà.
On a l'impression quand même qu'au fur et à mesure, alors après on passe au stade de 1 an, vous le disiez, peur de l'aspirateur, du téléphone, etc. Et puis vient vers 18 mois cette peur des monstres ou du noir, par exemple. Et ça provient d'où, cette peur du monstre? Parce qu'on n'a pas tous, les bébés ne sont pas confrontés à un moment donné à des monstres. Peut-être dans les récits qu'on leur fait, non?
Non, qu'on lui en raconte des choses ou non, ces peurs du noir et du monstre apparaîtront. Mais la peur du noir existe chez tous les enfants, se développera chez tous les bébés et tous les enfants, alors que la peur des monstres n'apparaît pas chez tous les enfants. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose.
Ça correspond à quoi, cette peur des monstres?
Alors, la peur des monstres, c'est plutôt à la période édipienne, entre 3 et 6 ans environ. C'est un peu la peur d'évincer, c'est le désir d'évincer le parent de sexe opposé. Alors vous allez me dire, on ne peut pas avoir une psychologue sans qu'elle parle de l'Œdipe et de la période édipienne, mais ça existe. Je le vois tous les jours. C'est le désir d'évincer le parent de sexe opposé. Et ce désir d'évincer, l'enfant se sent vilain, en quelque sorte, d'évincer, et il a peur d'être châtié. Donc, ce désir qu'il a, il va le projeter dans le monde extérieur. Et ça va être le parent qui vient le punir de ce désir de vouloir l'évincer. Donc, c'est en général dans une période édipienne où peut-être on n'est pas très clair avec Fan dans sa position de parent. On va être peut-être trop proche, pas avoir la bonne distance. Et c'est pour ça que les monstres n'apparaissent pas dans toutes les chambres d'enfants. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord.
Florence Millot.
Alors, dans ce que j'ai pu écouter du discours des enfants, effectivement, il y a toute cette période édipienne qui joue. Et pour moi, il y a certains enfants aujourd'hui qui arrivent très très bien à mettre en mots leur peur, même à 4, 5, 6 ans. Et de ce que j'ai pu observer, c'est que dans la peur du monstre, c'est vraiment une peur, une image un peu fourre-tout, comme vous disiez, vous parliez de projection tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une peur à l'intérieur de l'enfant qu'il n'arrive pas à exprimer. Parce que dans les 3 premières années de sa vie, il n'a aucun mot pour l'exprimer. Alors évidemment, vers 2-3 ans, il apprend à parler, mais c'est quand même assez léger. C'est pour désigner le monde, c'est pour demander à manger, à boire, etc. Mais au niveau de ses émotions, et des émotions qui sont très très fortes qu'il a pu vivre pendant ces 3 premières années, il est incapable de l'exprimer. C'est-à-dire si l'accouchement, par exemple, s'est pas très bien passé, si il est arrivé au mauvais moment, si le parent a été au chômage au moment de la grossesse, etc. Enfin, toutes les choses qui peuvent arriver dans une vie. L'enfant, c'est comme s'il était bâillonné, dans le sens où il ne peut pas parler, donc il le vit dans son corps. C'est
ça
comme
va se manifester justement par ces représentations, ces cauchemars, ces terreurs.
Donc à un moment donné, il va falloir qu'il en parle, mais comme il n'a pas les codes pour en parler, il va utiliser des images effectivement qu'il a pu entendre, comme des histoires de loups, de monstres, etc., pour dire aux parents, j'ai besoin que tu sois à côté de moi, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a un monstre à l'intérieur de moi. Et ce monstre, effectivement, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être une angoisse d'abandon, ça peut être plein de choses.
Dès lors qu'on va chercher à expliquer cette terreur, Liliane Német.
En tout cas, ce qui est important, c'est que tout ce qui fait peur à l'enfant, ou qu'il a absorbé des émotions ou de la vie de la famille, ça va sortir, le monstre, ça délimite une peur. On met avec le langage un mot pour cette peur un peu générale de toute sa vie pulsionnelle et de ce qu'il a vécu. Donc ça délimite, après le monstre qui est à l'intérieur de soi, on projette sur le monde extérieur, et là, le monstre va venir vous châtier de, par exemple, avoir envie de plus avoir de taper sa maman ou qu'elle disparaisse parce qu'elle a refusé quelque chose, de faire disparaître le petit frère ou la petite sœur. Donc, on a...
Ce qui est normal dans le développement de l'enfant.
Ce qui est tout à fait normal. Donc, l'enfant, en fait, il est très ambivalent parce qu'il est en colère contre les personnes qu'il aime le plus. Et de ressentir des émotions aussi fortes et une hostilité aussi forte, le fait qu'il a peur d'être châtié. Et c'est le monstre qui va venir le châtier. Donc plus je ressens d'hostilité au fond de moi, et plus je vais connaître le développement des monstres.
Alors ces créatures imaginaires, elles sortent justement de l'inconscient, parce qu'après on peut passer au stade des sorcières, alors les monstres, comme on voit un peu dans les contes, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, de cette représentation que l'on impose parfois d'ailleurs aux enfants, mais qui sont peut-être pas si bonnes que ça, je ne sais pas, à moins que ce soit un moyen d'extérioriser et d'exorciser ces fameux monstres que l'on a en soi. On passe à un nouveau stade ensuite, à ces créatures imaginaires.
Surtout, comme vous disiez tout à l'heure, ça leur permet de délimiter, donc d'exprimer beaucoup plus facilement à leurs parents « j'ai peur ». Parce que quand on n'a aucun mot et aucune image pour le dire, nous-mêmes en tant qu'adultes, quand on ne va pas très bien et qu'on pose un mot sur notre émotion, déjà on est capable de l'exprimer. Parce qu'il y a une idée, il y a comme un vecteur pour le dire. Donc les images effectivement des sorcières, des loups, des dragons vont aider l'enfant, mais à tous les âges et finalement même dans toutes les cultures. Alors après, c'est pas forcément exactement la figure de la
représentation,
mais c'est la même chose.
Et puis effectivement, les monstres et les sorcières qu'on rencontre dans les livres, en fait on les approche sur les genoux des parents, donc on est contenu, j'allais dire, par ses parents, et on peut comme ça approcher vaillamment ses peurs.
On va faire une première pause dans l'émission et puis on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion. Et puis on va voir comment aussi, du côté des parents, comment on peut affronter les peurs de ses enfants, peut-être en affrontant ces peurs que l'on a aussi en soi. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Planisphère, les défis du monde contemporain.
Le monde avance, sans repères ni boussole. Jean-Louis Thiriot redessine les frontières, conjugue les analyses, met l'histoire au service de l'actualité. Planisphère, le rendez-vous géopolitique de Radio Notre-Dame, c'est tous les samedis à 7h30.
Ah, le printemps, les oiseaux qui chantent.
Pour votre confort, pensez à remplacer vos vieilles fenêtres. Pour une meilleure isolation, mais aussi pour remplacer portes ou volets, la Maison de la Fenêtre est le spécialiste qu'il vous faut. En plus, pendant la belle saison, une remise de 20% vous sera accordée. Appelez vite pour demander un devis, il est gratuit, tout comme le déplacement. La Maison de la Fenêtre, agréée par l'Association française de défense du consommateur. 01 42 11 03 03 42 11 03 03.
Les Niçois, assurés de finir sur le podium, vont-ils rejoindre les Parisiens et les priver de la deuxième place? Les Parisiens peuvent-ils rattraper l'AS Monaco et continuer à viser le titre? Et si le podium et le championnat se jouaient lors de cette OGC Nice-PSG?
Pour connaître les réponses, rendez-vous ce dimanche 30 avril à 21h pour le match OGC Nice-PSG en direct et en exclusivité sur Canal+. Et c'est à retrouver dans les offres Canal à partir de 19,90€ par mois. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition.
Bonjour, c'est Victor Loupin. Retrouvez-moi tous les lundis à 11h pour Surexposition, une émission consacrée à l'actualité des musées et des beaux-arts.
En quête de sens, Sophie Noailles.
Et aujourd'hui, nous parlons des peurs enfantines que nous avons tous expérimentées, nous-mêmes ou avec nos enfants. On en parle aujourd'hui avec Florence Millot et Liliane Nemeth-Pierre. On en parlait à l'instant, ces fameuses peurs qui prennent différentes formes selon l'avancée, le développement de l'enfant, entre cette période de 8 mois, 18 mois, et puis ensuite ces peurs imaginaires. On parlait tout à l'heure des sorcières et des monstres. On a l'impression quand même que... nous, parents, on les favorise, ces peurs, en faisant des lectures à nos enfants. On est toujours dans ces fameux contes que l'on lit et qui ne sont pas forcément si positifs que ça.
Alors, moi, je trouve qu'ils sont très positifs parce qu'ils permettent à chaque enfant d'approcher tout ce qu'il ressent au fond de lui. Le petit pousset, l'enfant, il est comme le petit pousset par rapport aux géants. Les enfants ont peur de ces grands adultes, comme dans les contes. Donc, c'est très important. Il y a des parents qui suppriment des livres parce qu'ils se disent oh, « bah, il aura moins peur ». Alors, bien sûr qu'on ne va pas lire de force un livre à un enfant qui dit « non, j'en veux pas ». On l'approche, on le met pas dans ce livre-là.
Parce que par l'image qu'il verra aussi. Hein.
Et par les images, mais ça lui permet de dire des choses. Les contes, en fait, sont très proches des émotions des enfants.
Et là où finalement Florence le parent va pas favoriser la peur, c'est que dans un conte, il n'y a pas beaucoup d'images. C'est toute la différence. C'est-à-dire que dans un livre, on peut parler, vous parliez du petit poussé, on parle quand même d'un enfant qui est abandonné dans une forêt, qui est quand même assez violent, mais par contre, ce n'est pas vraiment mis en image. Ce qui est toute la différence, c'est-à-dire que l'enfant va se projeter, va s'imaginer un monde et va pouvoir, par effet cathartique, parler de ses peurs. Alors qu'avec une image, ça change toute la dimension. C'est-à-dire que là, l'enfant peut avoir vraiment peur parce qu'un enfant qui se fait dévorer dans la lecture, c'est pas exactement la même chose qu'un enfant qui se fait dévorer sur une image.
Et on est aujourd'hui, justement, dans un monde d'images. On a les tablettes, on a les dessins animés qui sont parfois quand même très violents. Donc on a tendance souvent à laisser nos enfants devant ces écrans, devant la télévision, devant des dessins animés ou devant la tablette. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Liliane Nemeth?
Yeah. C'est ce que dit Florence, les images ont un impact beaucoup plus fort sur l'enfant et ne développent pas forcément son imaginaire. Parce que le petit pousset, il a telle taille, le géant a telle taille, il est comme ça. Alors que dans un livre, l'enfant peut imaginer en fait ce qu'il supporte. C'est-à-dire que le petit pousset, il va l'imaginer comme ça, le géant ou l'ogre, il va l'imaginer autrement.
Il va s'approprier ses propres personnages.
C'est un petit peu ce qui se passe quand on a lu un roman et qu'il est adapté au cinéma. On est très déçu parce que les héros, enfin les personnages, on les avait fabriqués d'une certaine façon et dans le film, ils sont comme ça et pas autrement.
Donc quand on met des enfants à 7h du matin devant un écran de télévision qui va voir un dessin animé un petit peu violent, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis les parents sont pas forcément là pour toujours contrôler la fameuse chaîne ou le dessin animé en question. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il se passe que l'enfant, déjà, dès le réveil, dans les limbes du sommeil, a toutes ces images qui peuvent être plus ou moins violentes, qui ne peuvent ne pas être violentes, mais on ne sait pas comment l'enfant apprécie ces dessins animés et ces images qui vont rentrer et faire effraction dans sa tête. Et il va être tout seul, puisque les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup séparés de leurs parents dans la journée. Et dans la journée, qu'est-ce que ça va donner de commencer la journée avec tout ce panel d'images? Et aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, avec les écrans, les tablettes, etc., ont plus peur de leurs monstres intérieurs, c'est-à-dire de leur vie pulsionnelle, que des monstres sur les écrans. Ils terrassent toute la journée des monstres sur les écrans, et quand ils se retrouvent tout seuls dans leur lit, eh bien c'est terrible, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être seuls avec eux-mêmes et avec leur intériorité.
Florence Millot.
Et puis de ce que j'entends aussi des parents, c'est que quand les enfants ont peur justement des images, on ne se pose plus la question de la peur de l'enfant, de son monstre intérieur. On a l'impression que justement, le monstre, il est à l'extérieur. Donc on va parler des films qu'il a vus, on va mettre ça sous le compte d'un monstre, etc., de la télé ou de la tablette. Et du coup, l'enfant se coupe de ce qu'il voudrait dire de son monstre intérieur. Donc c'est-à-dire comment il va se réapproprier son histoire par rapport à la jalousie, par rapport à l'angoisse d'abandon, par rapport à tout ce qui peut se passer dans une famille. Parce qu'on a l'impression qu'on a le pouvoir de faire peur à un enfant avec une image. Et en fait, ça vient couper toute sa représentation intime et le message vraiment personnel que l'enfant aurait pu dire à travers l'image d'une sorcière et d'un monstre. Vous voyez, l'important, ce n'est pas tant de parler de la sorcière ou de la tête qu'elle a. C'est comme une sorte de pont pour entrer dans son monde intérieur. C'est-à-dire que plus l'enfant va parler de son monstre, et non pas, on ne va pas essayer de le couper ou de le rassurer finalement en disant que tout va bien, que les monstres n'existent pas, qu'il peut regarder sous son lit, qu'il ne se passera rien.
On va voir justement les différentes façons d'appréhender ces peurs et puis d'essayer de les appréhender, de les apprivoiser et puis de faire en sorte aussi de les comprendre de la bonne façon aussi. Et pas simplement dire voilà, non, ça n'existe pas, allez hop.
Et ce que je voudrais rajouter, c'est que très souvent les parents arrivent en consultation en disant c'est depuis qu'il a vu tel Walt Disney qu'il a peur et qu'il tremble à telle chose. Et en fait, le film ne va faire que réactiver des peurs qu'il a déjà avant le Walt Disney. Donc, c'est vrai que ça occulte le monstre, enfin, les peurs qu'ils ont vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes.
Ça va venir peut-être renforcer ces peurs.
Ça va les renforcer ou ça va les sortir plutôt, ou ça va permettre de... Oui.
Les réactiver, c'est-à-dire que j'ai une peur à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment lire à quel moment. Oh, à l'extérieur, quelque chose qui ressemble à peu près. Oui. Il y a eu un enlèvement, par exemple, dans un film. Oui. Allez, je peux enfin parler de mon angoisse d'abandon.
Oui, donc c'est pas facile. C'est finalement pas si mauvais que ça, quelque part.
Tout à fait, c'est-à-dire une peur, une fois qu'elle est à l'intérieur, elle est à l'intérieur. Après, effectivement, elle peut être réactivée par plein de choses, mais une fois que vous avez peur, comme vous disiez tout à l'heure, vous pouvez vivre dans une famille tout à fait classique, normale, sans télé, et l'enfant aura peur quand même.
Ça fait partie, il faut bien comprendre, que ça fait partie du développement.
Tout à fait.
Alors, comment agir? Comment un enfant qui se réveille en pleine nuit d'un cauchemar ou qui appelle ses parents parce qu'il a vu, je ne sais pas, l'ombre de la lune sur son mur et il a imaginé qu'il y avait un monstre qui se projetait et qui allait vraiment venir le dévorer sur son lit. Comment on agit à ce moment-là vis-à-vis de son enfant?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui avec les neurosciences, je trouve qu'ils nous aident beaucoup, c'est que quand l'enfant est en prise à une très grosse émotion, donc comme il tremble, quand il transpire, quand il pleure, c'est pas forcément le moment de trop lui parler parce qu'il est incapable d'entendre une explication. Si on dit à son enfant « c'est rien, t'as fait un cauchemar », il est en prise à son cerveau émotionnel, donc il est complètement sous le joug de ses émotions.
Est-ce qu'il est d'ailleurs éveillé à ce moment-là? Est-ce qu'il est dans un état de réveil?
Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il est un peu dans une nébuleuse, tout comme nous, quand on a un gros choc affectif ou une grosse émotion, par exemple pour un deuil, on n'est plus vraiment dans ce monde-là. On est un petit peu renfermé sur soi-même parce qu'on est, un peu anesthésié, tellement on a eu peur ou tellement on a du chagrin. Pour l'enfant, il peut le vivre pratiquement chaque jour. C'est-à-dire que ses émotions, comme il a un cerveau qui n'est pas tout à fait immature, avec une amygdale, donc tout ce qui fait partie du cerveau émotionnel qui est très très grosse par rapport à nous, finalement, ses peurs sont presque supérieures aux nôtres. Donc, c'est pas forcément vraiment à ce moment-là où il faut parler. C'est au moment où on l'a rassuré, donc pris dans les bras, embrassé, cajolé, où on a déjà apaisé le corps physique, que peut-être le lendemain ou une heure après, on va pouvoir lui parler. Enfin, ça dépend après si c'est dans la nuit. Mais ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'on peut parler avec l'enfant parce qu'il est incapable de nous entendre.
Liliane.
Alors là, c'est dans le cas des terreurs nocturnes. Quand l'enfant fait une terreur nocturne...
Oui, mais c'est effrayant pour les parents.
Alors là, c'est effrayant pour les parents. Et ce qui est difficile, c'est de ne rien faire à ce moment-là. Hein, parce que l'enfant n'a pas d'image de peur. Il a l'air possédé, il a l'air de voir un monstre. Et en fait, il est en sommeil très profond. Donc, il n'y a pas de peur réelle. Mais il donne l'impression d'avoir très, très peur. Et de dire aux parents de ne rien faire à ce moment-là, c'est très difficile pour les parents qui voient leur enfant terrifié. Alors qu'un cauchemar, ça se passe dans une autre phase de la nuit, ça se passe dans le sommeil de rêve. Et là, l'enfant se réveille. Il est réveillé par cette vision d'angoisse et par les images. On ne peut parler de cauchemar que quand l'enfant formule. Il y a un loup,
Là, on peut parler d'angoisse.
Là, on peut parler d'angoisse. Mais là, elle est délimitée par le personnage qui lui a fait peur, hein, par le vilain monsieur ou le loup qui va le manger. Alors, c'est pas la même chose que les monstres. Les monstres de la nuit, c'est au moment du coucher. Il y a des monstres sous le lit et les cauchemars, c'est autre chose, c'est dans son rêve. Alors là, il est très important de consoler son enfant, pas forcément de parler, enfin, de le consoler. Et il y a des enfants qui ont besoin, on peut pas dire « recouche-toi, le loup, il n'est pas dans la chambre ». Pour un enfant qui vient de vivre que le loup allait le dévorer. Donc là, il faut le consoler et attendre qu'il soit mieux, qu'il ne tremble plus pour le recoucher. Ce n'est pas du tout la même chose que lors des terreurs nocturnes où là, il est en sommeil profond. Il ne faut surtout pas le réveiller. C'est comme un somnambule. Il ne faut pas le réveiller. Mmh. Et le lendemain, on peut reparler du cauchemar à l'enfant. Mais il y a des enfants qui disent « Non, je ne veux plus que tu me parles du loup de cette nuit, je ne veux pas que tu m'en parles. » Il y a des enfants qui ne veulent pas se coucher les nuits suivantes parce qu'ils ont peur de revoir le loup de la nuit ou du méchant monsieur. Là, et puis il y a des enfants auxquels qu'on peut faire dessiner, on peut leur faire dessiner leur cauchemar. Puis il y en a d'autres qui ont envie d'en parler. Mais dans les terreurs nocturnes, il ne faut pas parler à l'enfant de sa peur de la nuit, parce qu'il y a amnésie totale. Il ne se rappelle de rien au réveil. Donc, on verra peut-être en amont ce qu'on peut faire pour éviter les terreurs nocturnes.
Florence Millot.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on... Effectivement, vous parliez des terreurs nocturnes et des cauchemars. Alors, plutôt après le réveil, parce qu'effectivement, la nuit, on ne peut pas faire grand-chose, mais de l'aider à vraiment... en parler quand l'enfant est d'accord pour savoir ce qui se passe dans la tête. Parce qu'effectivement, quand on pense qu'un loup est un loup, même nous, en tant qu'adultes, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, donc on n'a pas forcément envie de communiquer avec l'enfant, voire ça nous énerve. Mais quand on pose la question à l'enfant, il est parfois capable de nous répondre. Par exemple, je travaillais avec un enfant qui avait peur des cambrioleurs, donc toutes les nuits, il réveillait sa mère parce qu'il avait peur des cambrioleurs.
Et ça venait d'où,
Justement, juste le fait de lui poser la question, de lui dire... On imagine que c'est vrai, on imagine que le cambrioleur, il va venir dans ta chambre. Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-moi la pire chose qui puisse arriver.
Donc le mettre en situation réelle,
Le mettre
quasiment.
En situation réelle pour ne pas le couper dans sa communication. Et là, il m'explique qu'effectivement, il a peur qu'il vole tous ses objets de sa chambre. Et je lui demande lesquels en particulier, il me dit mon ordinateur. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans cet ordinateur? Et il me dit, il y a toutes mes photos, tous mes souvenirs, et c'est les seuls souvenirs que j'ai quand mes parents étaient encore ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient séparés. Et du coup, on voit bien que derrière ce mot qui est un peu banal, la peur d'un cambrioleur, il y a tout un univers. L'enfant, il s'imagine qu'il va lui voler ses souvenirs et que ses souvenirs, ils sont précieux pour lui. Donc juste en lui posant la question, en lui disant juste, on imagine que c'est vrai, on imagine que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? C'est quoi ton scénario intérieur? On arrive à récupérer le film de l'enfant, quand il en a envie, évidemment. Et parfois, juste en trois questions, il est capable de nous dire sa vraie peur. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, ça va prendre une autre dimension. Et là, on va pouvoir rassurer l'enfant sur quelque chose qui est important pour lui, à savoir ses souvenirs, et plus garder cette image du cambrioleur dont tout le monde, finalement...
Oui, mais en tant que parent, on ne peut pas trop jouer au psychologue. Là, c'est très bien dans le bureau du psychologue, mais quelquefois, on ne peut pas interpréter ou le faire parler sur sa peur. Mais quelquefois, il y a des cauchemars comme le loup. J'ai rêvé que le loup voulait manger ma petite sœur. Là, on se rend compte que c'est qu'il exprime une hostilité vis-à-vis de cette petite sœur et il a des bénéfices secondaires de son cauchemar. Parce que les parents vont dire « Mais non, c'est pas vrai », ils vont le consoler. Donc, à la fois, il peut montrer son hostilité vis-à-vis de la petite sœur et en même temps, il a les câlins de papa et maman parce qu'il a eu très peur. Alors, c'est difficile, vous avez tout à fait raison, de l'exemple des cambrioleurs là, que vous donnez est extraordinaire. Mais en tant que parent, il faut à la fois consoler et pas trop interpréter non plus parce qu'on est dans un rôle de parent.
L'idée, ce n'est pas tant d'interpréter, c'est de lui poser la question.
Poser la question, oui.
De savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Parce que parfois, même en tant que psychologue, je ne peux pas interpréter. C'est que l'enfant qui a la réponse. Et en tant que parent, ouvrir la porte de la communication en disant « Je pars du principe que tu as peur et que tu as raison d'avoir peur. On va juste essayer de savoir quelle est ta vraie raison. » Après, l'enfant le dit, le dit pas. Et puis, éventuellement, consulte un spécialiste. Mais parfois, en une question, ou juste par un dessin dont vous parliez tout à l'heure, ça débloque. Et surtout, ça permet de prendre en compte une peur réelle pour le parent, de manière assez simple, finalement. Même quand on s'en sort pas, effectivement, on va demander de l'aide.
Parce que l'objet de la peur, en fait, n'est pas réel, mais la peur, elle est réelle.
Le ressenti est là, quoi.
On va faire une pause musicale cette fois-ci dans l'émission et puis on se retrouve juste après. Puis si vous avez envie de témoigner de ces peurs que vous aviez étant enfant qui ont subsisté, eh bien n'hésitez pas à 056 56 44 00.
Radio Notre-Dame.
L'orage a passé sur le village encore vide. Les gens sont arrivés, c'est le vieux chien qui les guide. Quelqu'un s'avance au devant d'eux, la maison est jolie. On se présente un peu, voici l'enfant qu'on vous laisse. Dis bonjour au monsieur, il a la main bien épaisse. La dame ajuste son col bleu, comme on est bien ici. Mais Nicolas, il veut pas qu'on l'embête. Tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il veut rentrer chez lui. Je veux pas rester ici. Et puis c'est la valise qu'on ouvre dans la cuisine. L'odeur du bouillon froid, le chat noir dans la bassine. Les voix qui montent au long. La chambre est par ici. Enfin, c'est les adieux qui vous montent à la poitrine. Faut être raisonnable, on apprend des tartines. Ce soir, tu dormiras bien mieux au milieu du grand lit.
Nicolas de William Scheller sur Radio Notre-Dame dans Quête de Sens aujourd'hui pour parler de ces peurs des enfants, mais qui peuvent subsister hein, d'ailleurs un petit peu plus tard. Et on a vu comment, eh bien, que ce soit les terreurs nocturnes, que ce soit les cauchemars, en tout cas, il faut pouvoir avoir la bonne attitude, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on peut être effrayé, Florence Millot, de ces peurs de ses enfants.
Bah, comme son nom l'indique, la peur, ça fait peur.
La peur, ça fait peur, effectivement.
Et plus on va rester à un niveau premier, c'est-à-dire dans des images, on a parlé des monstres, etc. Mais plus on va rester à ce niveau-là, plus ça va faire peur. Mais plus on va essayer d'être comme un enquêteur pour savoir ce qui se passe, plus on va se rassurer et en tant que parent et en tant qu'enfant parce qu'on va pouvoir approfondir la communication. Sinon, on a l'impression de tourner en boucle et de répéter des phrases un peu automatiques, comme on disait tout à l'heure, c'est rien, tu vois bien que ça n'existe pas. Et puis finalement, on se sent impuissant en tant que parent parce que l'enfant a toujours peur et que toutes les nuits vient nous réveiller, voire parfois même la journée vient nous déranger.
Je vais dormir dans le lit de papa et maman.
Donc on se sent impuissant, il y a la colère qui monte et là, il n'y a plus aucune communication. Donc finalement, ça fait encore plus peur parce qu'on a l'impression que le problème, entre guillemets, est encore plus grave parce qu'il ne progresse pas. Alors que quand on est capable de te dire « je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas de quoi tu as peur, viens, on va essayer de découvrir ensemble, un peu comme un jeu et comme on mène une enquête. » Et comme en tant que parent, on se sent progresser et on voit son enfant aussi qui progresse, il y a quelque chose qui peut s'apaiser dans le corps et qui rassurant. Finalement fait moins peur que de rester au premier niveau.
Liliane Némette-Pierre.
Oui, moi, ce que je pense, c'est que bon, tous les enfants auront peur, tous les enfants feront des cauchemars et que tout dépend de la fréquence. Vous voyez, si vous avez un enfant qui fait 3 cauchemars chaque nuit, là, il se passe quelque chose. Là, on peut réfléchir. Un enfant qui fait un cauchemar une nuit, une fois par semaine, bon, il ne se passe pas forcément où il a vécu quelque chose dans sa vie, dans la journée, qu'il n'a pas encore digéré, qui sort dans le cauchemar. Mais on n'est pas obligé, à chaque fois qu'il a fait un cauchemar, de chercher ce qui se passe.
De jouer au psychologue ou à la psychanalyste.
Voilà, je pense que c'est la fréquence et l'intensité du cauchemar. Parce que quand il y a des cauchemars qui vont disparaître tout de suite, puis il y a des cauchemars qui poursuivent l'enfant dans la journée. Hein, il y pense à son cauchemar, ça a une prégnance qui fait qu'il est habité par son cauchemar, il veut plus se coucher, ça va dépendre de la fréquence et de la prégnance du cauchemar et de l'envahissement du cauchemar sur l'enfant aussi.
Cette fameuse peur du noir, est-ce qu'il est bon d'ailleurs de mettre une veilleuse dans la chambre, de laisser la porte ouverte et ou même de mettre de la lumière dans la chambre?
Alors, je dirais que la peur du noir apparaît autour des 18-24 mois.
Tous les enfants ont peur du noir ?
Tous les enfants ont plus ou moins peur du noir. Hein. Mais ça n'apparaît... C'est, justement, aujourd'hui, on met des lumières partout. Dès que le bébé naît, il a des lumières et des guirlandes et des petites veilleuses.
Avec le plafond.
Il y en a partout dans la chambre, des lumières. Alors que la peur du noir n'apparaît qu'avec le développement de la vie psychique et de l'imaginaire qui est autour des 2 ans. Donc avant, ce n'est pas la peine de mettre des lumières. Et la plupart des parents mettent aussi pour se repérer dans la chambre du bébé quand ils vont voir si le bébé respire, si le bébé va bien. Si... Mais ce n'est pas la peine d'habituer l'enfant à des lumières avant l'âge de 2 ans. Et puis il y a des enfants qui, à 2 ans, n'ont pas peur du noir du tout.
Florence Millot.
L'idée encore, c'est que si vous avez envie de mettre des lumières, c'est que ça vous n'empêche pas de pouvoir entendre les peurs de l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va anticiper en disant bon bah je vais mettre effectivement une veilleuse à droite, une veilleuse à gauche, je vais lui laisser un verre de lait. Et
on peut même poser la question à son enfant, est-ce que tu veux que je laisse la lumière d'ailleurs?
Souvent, il peut dire oui, mais...
Ils le disent eux-mêmes. Ils le disent, n'éteins pas, laisse la lumière dans le couloir. Ils le disent eux-mêmes, je pense.
L'idée, c'est que le parent ait en tête qu'il ne faut pas qu'il fasse tout ça pour que l'enfant n'ait pas peur. Si l'enfant a peur, quoi qu'il se passe, il a peur.
Exactement.
Donc, on accueille ce qui vient. Parce que parfois, le parent est dans une anticipation et dans un hyper-contrôle de l'environnement.
Mais est-ce qu'il faut justement laisser la lumière allumée?
J'ai envie de dire, peu importe. Hein. Pour moi, c'est un détail. Ça n'a pas changé grand-chose aux peurs.
Mais ça va peut-être permettre à l'enfant de rester éveillé, parce que peut-être aussi qu'il a envie de rester éveillé, parce qu'il sait que ses parents sont dans la pièce à côté et qu'il n'a pas forcément envie de dormir.
Oui, mais s'il a envie de rester éveillé, qu'il y ait de la lumière ou pas de lumière, il restera éveillé. Mmh. Et puis il y a des parents maintenant qui mettent plein de choses, la musique, la lumière... 4 doudous dans le lit, etc. Et l'enfant continue à ne pas vouloir dormir et à avoir peur.
Si ça marchait, ça ferait bien longtemps qu'on ne parlerait plus du sujet des peurs. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la pensée magique. On va supprimer les peurs de notre
enfant.
C'est le fameux rituel qu'on va mettre en place qui n'est pas forcément finalement efficace.
Voilà, comme s'il y avait des méthodes clés pour éduquer.
Donc, vous dites toutes les deux qu'il n'y en a pas.
Non.
Et heureusement,
la fait heureusement.
Et ce que je dirais, c'est que la peur du noir, elle est fonction de l'hostilité que l'enfant ressent au fond de lui vis-à-vis des gens qu'il aime, en fait. Et je pense à ce petit garçon qui dormait dans le noir. Et puis, du jour au lendemain, il a fallu mettre la grande lumière. Il ne pouvait plus s'endormir s'il n'y avait pas la grande lumière dans sa chambre. Et en fait, ça a correspondu au premier pas de sa petite sœur. Quand le bébé qui restait toujours assis, qui ne bougeait pas, commence à se déplacer et à toucher à ses jouets, là, il y a l'enfant le vit très mal. Et là, il a fallu mettre les grandes lumières.
Florence Millot, Liliane Némette-Pierre, est-ce qu'on projette, enfin, les parents projettent leurs peurs sur leurs enfants?
Oh oui, oh oui, mais forcément, puisque... avoir un enfant, ça réactive tout ce qu'on a été enfant. Et quand un enfant a peur ou n'arrive pas à dormir, on dit, ah ben moi aussi, quand j'étais petit, j'avais du mal à dormir. Et on se projette forcément, et on a tendance à se reconnaître dans son enfant, et puis à être d'autant plus attentif qu'on a eu soi-même ces peurs.
Et puis pour le parent, ce qui est compliqué, c'est quand on se retrouve face à un enfant qui a peur et que nous-mêmes, on a pu avoir des peurs enfant, le parent se sent parfois complètement impuissant face à son enfant quand ses propres peurs n'ont pas été écoutées.
Exactement.
C'est qu'il se trouve dans une espèce de dilemme où il a envie de protéger son enfant et en même temps, cet enfant, il l'énerve quand il pleure, quand il crie, quand il l'appelle. Il a juste envie qu'il soit un peu loin parce qu'il le fatigue. Exactement ce que lui a pu ressentir face à son propre parent. Et du coup, c'est cette tension intérieure
Exactement.
Qui se joue face à un petit enfant et qui est intéressant justement de pouvoir passer et de se rendre compte que bah non, moi j'ai peut-être juste envie d'écouter mon enfant et que même si les médias me disent différemment, même si ma mère ou mon père ont fait différemment avec moi, moi au fond de moi, dans mes compétences de maman, dans mon instinct de maman, j'ai envie de faire ça et je suis à l'aise avec ça.
Et puis on a envie d'accompagner son enfant, mais comme revient l'enfant terrifié qu'on a été, on est face à cet enfant terrifié, on redevient cet enfant terrifié et on a beaucoup de mal à être apaisant pour son enfant qui a peur.
Et on peut être source d'anxiété à ce moment-là.
Oui, parce que on n'est pas très clair, on a du mal à apaiser son enfant.
Et c'est à mon sens pour ça que c'est aussi important, dès le plus jeune âge, même si l'enfant s'en servira beaucoup plus tard, de toujours lui poser la question de qu'est-ce qui se passe par rapport à ses peurs. Alors l'idée, c'est pas de jouer à l'apprenti psychologue, c'est juste de lui donner un processus qui fait que l'enfant va apprendre à décoder ce qui se passe en lui, et peut-être que 2, 3 ans, 5 ans plus tard, ça va lui permettre d'avoir un discours intérieur dans sa tête parce qu'il a déjà fait l'exercice avec sa maman ou avec son papa et d'avoir, on va dire, comme une maman intérieure ou comme un papa intérieur qui fait qu'à chaque fois que j'ai une peur, par exemple devant un contrôle, je me rappelle que ma mère ou mon père me montrait le chemin d'exprimer mes émotions et je vais pouvoir le faire tout seul, comme un parent intérieur.
Florence Millot, vous parlez de contrôle, alors, parce qu'il y a les peurs à l'école, alors, on a parlé des peurs nocturnes, des peurs de cauchemars, etc. Mais est-ce que ces peurs, finalement, qui ne sont pas justement réglées, expliquées, verbalisées, extériorisées, etc., qui doivent normalement se passer naturellement à un certain développement de l'enfant, se transforment en anxiété, et d'autant plus aujourd'hui où on demande énormément à l'enfant?
À mon sens, parfois oui, dans le sens où effectivement il y a tellement de méthodes aujourd'hui où on a l'impression qu'on donne son maximum, alors effectivement les émissions pédagogiques, les tablettes, les doujous, etc. Et comme ce temps-là on ne l'a pas pris pour discuter et que l'enfant se retrouve seul face à ses peurs dès le plus jeune âge, c'est comme s'il mettait un chapeau dessus, donc il grandit, donc rien ne se voit. Et puis vers 7, 8, 10 ans, l'enfant va commencer à avoir de plus en plus d'anxiété. Et ça c'est assez nouveau je trouve, depuis que je commence à pratiquer, depuis 3 ou 4 ans, je trouve que le paysage a vraiment changé et qu'aujourd'hui, les enfants ont des vraies angoisses et des grosses anxiétés qu'il n'y avait pas forcément avant. Ils parlent de l'avenir, ils parlent du chômage, je parle même à 7 ans, hein, avec une définition finalement assez claire des factures d'EDF, enfin, bref, tout ce qu'ils peuvent entendre comme ça sans forcément comprendre ce qui se passe. Et moins on est dans la communication avec l'enfant, c'est-à-dire juste en l'écoutant et en prenant ce temps-là, plus il va avancer avec des petites peurs qui sont comme ça latentes, passent inaperçues parce que finalement la peur de la sorcière et du loup, tout le monde la connaît, donc on ne prend même pas le temps pour s'y attarder.
Ça veut dire ne pas réussir à l'école, ne pas réussir son contrôle, avoir peur de faire des fautes, avoir peur de ne pas être à la hauteur déjà à 7, 8 ans.
Bien sûr, oui, les enfants le disent très très clairement. Au-delà, voilà, la peur du chômage, la peur d'être à la rue, bien sûr. Mais effectivement, si on pose encore une fois, on demande à l'enfant ce qui se passe en lui, quel est son film intérieur, on est capable de régler sa peur. C'est-à-dire que si l'enfant dit à sa mère « bon, bah, j'ai peur d'y arriver » et qu'on lui dit « mais si, t'inquiète pas, travaille un peu plus, ça ira », ça ne va rien changer puisque sa peur, elle n'est pas là. Sa peur, elle est « j'ai peur d'être un clochard ». Ça, pratiquement un enfant sur 3 me dit cette peur-là quand il y a une difficulté au niveau de l'école. Finalement, je ne suis pas motivée. J'arrive pas à me construire parce que de toute façon, j'y arriverai pas, je vais être à la rue.
Parce qu'on lui a mis une pression quelque part.
Et qui peut l'entendre aussi, c'est pas forcément que le parent, hein. Ça peut être aussi les médias, ça peut être tout ce qu'il entend, puisque maintenant l'enfant a accès à toute l'information exactement de la même manière que nous. Mais ce qui est important par là, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où sa peur, c'est celle-là, par exemple la peur d'être clochard ou la peur d'être à la rue, on va pouvoir rentrer en communication avec lui, il va pouvoir élaborer quelque chose et se rendre compte par lui-même que finalement, bah, c'est pas vraiment vrai. Mais tant que ça reste tapis dans l'ombre et que l'enfant n'arrive pas à l'exprimer et qu'on reste encore une fois au premier niveau, à savoir travaille plus à l'école et tu auras un bon avenir, si moi à l'intérieur ma peur c'est le contraire, je vais pas travailler, hein. Je vais rester bloquée sur ma peur et je vais rester figée.
Liliane.
Moi, je reviendrai sur les peurs du coucher, les peurs de la nuit, où souvent, les parents ont une attitude, j'allais dire, ils pensent qu'ils apaisent leur enfant au moment du coucher, en disant, ils mettent sur un plateau toutes les peurs qu'il pourrait avoir, qu'il n'a pas forcément. Ils disent, bah, t'as pas à avoir peur, on a bien fermé les portes à clé, il n'y aura pas de cambrioleur. Et ils mettent sur un plateau, alors que l'enfant n'y pense pas forcément. Et ils pensent apaiser leur enfant, alors qu'ils lui mettent comme ça ces peurs auxquelles il n'aurait pas pensé.
Par rapport à ces peurs aujourd'hui qui se développent plus, enfin ces angoisses, ces anxiétés par rapport à l'avenir qui se développent, on donne ces peurs aussi sur un plateau à ses enfants en leur disant « si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas te retrouver à la rue, tu seras au chômage, etc. »
Et c'est une peur en fonction de l'évolution de la société où tous les gens ne trouvent pas du travail. Donc dès très tôt, même dès la crèche, il faut déjà être performant. Et on compare les enfants entre eux, enfin, c'est-à-dire et les parents.
La grande différence, c'est que c'est normal d'avoir peur, mais parce que là, on parle de peur imaginaire. C'est-à-dire que l'enfant n'a jamais vu de loup, il n'a jamais vu de cambrioleur, il n'a jamais vu de fée ni de dragon. En revanche, la peur de l'avenir, c'est une peur que nous, adultes, on a déjà. Donc là, on n'est plus du tout dans le même registre. C'est-à-dire que non, le parent n'a pas de pouvoir de faire peur à son enfant quand c'est des peurs imaginaires, parce que ça fait partie du développement. En revanche, quand l'enfant a trop accès à l'actualité, notamment, par exemple, les attentats, ou aujourd'hui, dès la maternelle, les enfants dessinent les attentats à l'école, on est en train de faire entrer des informations que l'enfant est incapable de comprendre, comme on le voit à 5 ans.
En peur de l'avenir ?
Oui, certainement. Et dites-vous bien qu'en France, 75% des enfants regardent les JT, le journal télévisé, le soir. Qu'est-ce que ça met dans la tête d'un enfant ? Alors, si les parents encore expliquent, mais même, il y a des images, on sait que les journaux télévisés sont fabriqués pour faire de l'audimat, c'est-à-dire qu'il faut mettre des événements terribles pour attirer l'attention. Si on dit que tout va bien dans le monde, personne ne regarde. Donc, 75% des enfants de moins de 5 ans voient le journal télévisé le soir. Donc, c'est déjà, on leur met sur un plateau les frayeurs du monde.
Quelles conséquences, justement, pour eux, à ce moment-là ?
Je trouve qu'on leur donne on leur transmet de l'anxiété, des angoisses qu'ils ne peuvent pas surmonter à leur âge.
Et puis surtout, ils pensent que tout est vrai. C'est-à-dire que nous, on a encore le recul en se disant, bon, effectivement, ça c'est, par exemple, ça c'est loin de nous, ça effectivement c'est triste, mais peut-être ça ne nous arrivera pas. L'enfant, non. Quand on parlait des attentats la dernière fois, les enfants sont venus au cabinet, ils pensaient que c'était dans leur chambre, ils ont fait tout un système de protection, ils ont sorti leurs petits soldats. C'est comme si l'information et le drame arrivaient chez eux directement parce qu'ils n'ont pas ce recul. Paris, ils ne savent pas où sont placées les choses, par exemple. Donc pour eux, tout vient et tout est envahissant.
C'est dans l'immédiateté.
Tout rentre à l'intérieur.
Tout rentre dans leur chambre. Le monde effrayant rentre dans leur chambre. Et on ne peut pas s'endormir sereinement avec les morts du JT. Puis il ne faut pas oublier que les petits-enfants confondent la fiction et la réalité. Donc les morts, ils ne savent plus si c'est des vrais, pas des vrais. Ils mettent tout ça...
D'où ma question du départ par rapport au dessin animé, etc. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre devant les yeux d'un enfant.
Alors, un dessin animé, c'est de l'imaginaire. C'est des personnages qui sont aussi créés, qui sont dessinés.
L'enfant fera la différence.
Ah bah bien sûr. C'est pour ça aussi que l'enfant aime les dessins animés. C'est que c'est un monde qui est magique, c'est un monde qui n'est pas tout à fait la réalité.
Ça n'existe pas.
Bien sûr. Par contre, comme on disait, ça peut réactiver des peurs.
Est-ce que nous sommes en train de fabriquer des futurs adultes anxieux et angoissés ? Alors, on en a déjà pas mal, mais, puisqu'on est les premiers consommateurs en France de psychotropes et autre chose. Mais est-ce qu'on est dans ce processus-là ?
Naturellement, avec tout ce qui se passe, effectivement, on peut être dans ce processus. Mais quand on permet à l'enfant d'avoir accès à son imaginaire, aux rêves, à la fantaisie, peu importe que ce soit des histoires achetées, inventées, même pour nous-mêmes, il y a comme une sécurité intérieure qui se...
On a les ressources pour ça.
Voilà. Quand on en a envie. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on va le faire pour l'enfant, plus on va le sécuriser dans son monde intérieur, plus on va se sécuriser nous-mêmes aussi, parce que l'exercice est le même. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle la méditation, la sophrologie, la relaxation. C'est quoi ? C'est tout simplement créer des images mentales qui sont positives. On est dans la nature, on entend l'eau couler. Si on fait la même chose avec l'enfant, alors à différents niveaux, parce que ça, l'eau qui coule n'intéresse pas forcément, mais en tout cas dans un monde qui est apaisé, une sécurité, l'aider à construire un refuge intérieur, pour nous aussi, on est bien. Et le faire avec son enfant, ça peut être intéressant parce que, au-delà de vouloir lui apprendre quelque chose, on l'apprend aussi pour nous-mêmes.
Et je pense qu'il est très important de laisser l'enfant rêver, ne pas être toujours face à des images extérieures, de pouvoir s'ennuyer. Et les enfants d'aujourd'hui n'ont plus le temps de s'ennuyer. Dès qu'ils s'ennuient, on les met devant des écrans ou des tablettes. Ils ne lisent plus beaucoup. Donc, c'est très important d'arriver à être avec soi-même, bien avec soi-même, et de peu à peu apprivoiser toutes ces images ou toutes ces pulsions intérieures.
Qu'il retrouve finalement l'enfance que peut avoir tout enfant, normalement, que devrait avoir. C'est cette insouciance de l'enfance, et c'est naturel.
C'est-à-dire, c'est la capacité à être seul.
C'est très important.
Sauf que les tablettes, etc., vous êtes complètement passif face à une image. Donc plus vous êtes passif dans les premiers temps de votre vie, moins votre vie est riche et plus c'est difficile après parce que l'enfant a tout le temps peur d'être seul. Mais je vois même à 10 ans, il y a des enfants qui sont toujours collés. Ils sont incapables d'être tout seuls même dans la maison ou dans une pièce parfois. Alors que quand on rêve, on se crée ces images mentales. Ça veut dire que quand l'enfant va se retrouver seul et qu'il s'ennuie, il est capable d'avoir un monde à sa portée. Or, avec une tablette, si la tablette est éteinte, et alors surtout s'il est puni de tablette, l'enfant, non seulement il est fâché parce qu'il est puni, mais au-delà de ça, il est vraiment tout seul dans sa tête. Et c'est ça qui l'angoisse. C'est pas tant comme avant, on punissait de dessert. Finalement, l'enfant, il s'en passait très bien et puis il allait goûter après. Là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, quand il ferme les yeux, c'est tout noir et c'est vide. Et c'est là où c'est angoissant. Et c'est là où il faut faire aussi attention. Alors évidemment, la tablette existe. De toutes les manières, il faut vivre aussi avec son temps. Je veux dire, l'idée, c'est pas de tout supprimer, attention. C'est juste de garder cette et d'aider l'enfant à garder cette capacité à être seul en inventant des histoires ensemble ou en faisant ce qu'on a envie en tant que parent.
Liliane.
C'est vide ou rempli de tous ces monstres intérieurs dont il ne sait que faire puisqu'il ne peut pas les transmettre dans la journée ou les développer.
Pour conclure, alors, les conseils que l'on peut donner pour résumer aux parents. Liliane. Face à ces peurs, à cette erreur que peuvent avoir nos enfants.
Attendre qu'ils parlent eux-mêmes de leurs peurs et ne pas leur mettre sur un plateau. Essayer de les protéger du monde extérieur fait par les médias, avec ces images qui sont véhiculées. Leur lire énormément de contes et de livres, avec les images des livres. Et être très à l'écoute de son enfant.
Je rappelle votre livre, Liliane, Peur du noir, monstres et cauchemars aux éditions Albin Michel et Florence Millot. Il y a des monstres sous mon lit. Vraiment des infos pratiques aussi et des bonnes solutions pratiques.
L'idée dans le livre, c'était de partir du discours des enfants. Donc il y a plein effectivement d'exemples très très concrets d'enfants. De partir aussi sur une sorte de méthode, même si je n'aime pas employer ce mot-là, mais de communication pour aider les parents avec des questions toutes simples pour ouvrir la communication. Et aussi beaucoup beaucoup d'outils pratiques parce que même si ce n'est pas forcément... Enfin, ça vient accompagner et ça vient permettre aux parents de rencontrer son enfant autour de jeux, par exemple, pour transformer les peurs. C'est-à-dire que la peur existe, comme on parlait tout à l'heure, la peur du monstre. On va s'amuser à la transformer, la dessiner, l'amplifier, le ridiculiser.
À découvrir, donc, dans le livre de Florence Millot, Il y a des monstres sous mon lit, aidez votre enfant à vaincre ses peurs aux éditions Hachette. Merci beaucoup à toutes les deux pour nous avoir éclairés sur ce sujet si, si précieux pour tous les parents et les grands-parents qui nous écoutent. Merci, à très bientôt.
Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com.